Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Alors, qu'est-ce qui change ? Déjà le nom du musée, enfin, il ne change pas vraiment, il se complète en fait. On l'a complété avec Musée des Arts Précieux, Musée des Arts Précieux Paul Dupuis, parce qu'avant c'était Musée Paul Dupuis, Musée des Arts Graphiques et des Arts Décoratifs. Donc c'est toujours le Musée des Arts Graphiques et des Arts Décoratifs, mais on a voulu donner avec ce nom de Précieux, on a voulu ouvrir en fait la thématique, puisque vraiment les collections du Musée Paul Dupuis, c'est énorme, ça représente plein de choses différentes. Graphique, décoratif, horlogerie, c'est très... Bonjour. Donc, précieux parce que c'est précieux, vraiment, rien que pour l'horlogerie. Là, on a des collections aussi du Moyen-Âge avec des statues magnifiques en bois, en ivoire, on a des trésors.
C'est dans la délicatesse.
La délicatesse, voilà, c'est vraiment... Ça nous permet. C'est un champ lexical en fait assez ouvert. Donc.
Il était fermé au public depuis le 1er avril 2019, et ce, en raison d'importants travaux de mise en conformité du troisième étage aux normes de sécurité incendie, en raison également du réaménagement de l'accueil et des salles d'exposition. Et voilà que, néanmoins, il vient de rouvrir, partiellement, pour l'exposition temporaire « Art de l'Islam, un passé pour un présent ». Outre ces réaménagements internes, le musée Paul Dupuis de Toulouse, puisque c'est de lui dont il s'agit, changera également de nom lors de sa réouverture totale prévue en juin 2022. De musée des arts décoratifs et des arts graphiques, il deviendra donc le musée des arts précieux Paul Dupuis. Coproduite par la réunion des musées nationaux réunissant 18 villes françaises et par le Grand Palais et le musée du Louvre, ces expositions, qui chacune en leur lieu présenteront 10 œuvres, incarne la richesse des cultures de l'islam et de leur inscription dans l'histoire de France depuis plus de 1300 ans. Pour Francis Saint-Genès, conservateur du musée des arts précieux Paul Dupuis, une impulsion politique heureuse.
Donc voilà, donc initiative politique heureuse, impulsion politique tout à fait heureuse de notre point de vue. Mais néanmoins, c'est un projet qui a été rendu possible parce qu'il y a eu des initiatives scientifiques de longue date sur ces questions-là. Le département des arts de l'islam du Louvre ayant initié depuis plusieurs années déjà un réseau des musées en France conservant des collections d'art islamique. Parce que autant le département du Louvre est un département phare pour les arts de l'islam en France, autant le reste des collections nationales sur ces aires culturelles est un peu plus dispersé, on va dire. Il n'y a pas de... En région, il n'y a pas de grand département muséal sur ces collections-là, et pour autant, il y en a un peu partout, dans les trésors d'église, dans les musées, voilà. Donc le but de ce réseau était de mieux connaître ce patrimoine-là et, petit à petit, de le valoriser autant que faire se peut par des publications, par des expositions. Donc finalement, l'initiative politique est arrivée à un moment aussi où il y avait déjà une meilleure connaissance de tout ce qui était présent sur le territoire. Et Toulouse a été sollicitée. Une bouteille à la mer qui a été envoyée par Yannick Lindst pour que un des 18 lieux soit Toulouse. Et moi, j'ai un peu levé la main en disant qu'effectivement, à Toulouse, le musée Paul Dupuis a un certain nombre d'objets d'influence orientale ou venant directement du monde musulman. Donc, finalement, on a vocation à accueillir cette exposition et ça tombe bien parce qu'on n'est pas encore ouvert, mais la salle d'exposition temporaire peut être ouverte. C'est un peu une gageure, hein. Je dis ça tombe bien, mais ouvrir un espace d'exposition en plein milieu d'un chantier, hein, vous l'avez vu, on n'est pas encore totalement, voilà, on vous accueille comme on peut, au mieux, je veux dire, au mieux, enfin, du mieux que la situation nous le permet. Mais il y aura, il faut nous en excuser.
On entre dans l'intimité, là.
Un petit peu, quand même. Vous l'avez vu en arrivant ce matin, on était un peu en train de s'affairer encore. Voilà.
Témoins artistiques et historiques, les œuvres d'art visibles dans les diverses expositions illustrent depuis 13 siècles la diversité culturelle et confessionnelle du monde islamique. Reflet de la circulation des idées et des hommes, elles disent aussi quelque chose de l'héritage pluriel du patrimoine français. De par sa proximité avec l'Espagne, Toulouse est au cœur d'une histoire particulière avec le monde islamique. Certains trésors, comme le fameux suaire de Saint-Exupère de la basilique Saint-Cernin, exceptionnellement sorti de son armoire pour l'occasion, en témoignent.
Le parti pris a été de présenter 10 œuvres sur chaque lieu. Alors, comme ça paraît peu, mais alors ce sont quand même des œuvres importantes. Et il y a, si vous voulez, l'expo étant, ces expositions étant conçues comme un tout, il y avait quand même l'itinérance de 180 œuvres à organiser.
Donc après, à nous à faire le tour.
Après, voilà, on a assez peu de temps finalement, puisque c'est une exposition qui s'est montée en moins d'un an. Il y a, suivant les lieux, il y a 3-4 œuvres du Louvre ou d'autres musées nationaux, autant d'œuvres locales, régionales. Il y a systématiquement une œuvre d'art contemporain qui est prêtée par un frac. Mmh.
Donc c'est, oui, un ancrage vraiment régional et local qui dit quelque chose d'ailleurs.
Exactement, hein. Tout à fait. Et c'était une volonté voilà, de ne pas simplement déplacer des œuvres du Louvre, outre que le département allait être un peu pillé s'il fallait prendre 180 œuvres au Louvre. Mais le souhait était de valoriser les collections nombreuses et relativement intéressantes des régions en la matière. Voilà, donc 10 œuvres. J'aurais envie de dire, ne cherchez pas un propos scientifique liant l'ensemble de ces œuvres. Le but était quand même avant tout de montrer la grande diversité et culturelle et géographique et l'étendue aussi chronologique des civilisations dont il est question ici. Donc le but était de montrer cette grande diversité, cette grande étendue. Donc on n'a pas forcément à chaque fois un fil directeur, un sujet, une thématique qui est déroulée, mais plutôt des croisements. Voilà. Et un parti pris qui est de montrer effectivement que les échanges d'objets, les diffusions d'idées, les diffusions aussi des styles, de l'iconographie, tout ça, c'est remonte à des périodes très anciennes, parfois un très haut Moyen-Âge, et n'a cessé d'irriguer et de féconder le monde occidental. Donc des échanges Orient et Occident que l'on lit constamment dans les œuvres qui vous sont présentées. Voilà, donc l'expo commence par un film immersif, un des joyaux de l'art islamique, ce sont ces monuments, les œuvres architecturales. Donc là, il y a un balayage général de différents lieux, profanes ou sacrés. Les lieux vous sont listés dans le petit livret. Voilà. Donc pour une contextualisation des différents lieux et des différentes périodes de l'architecture islamique. Avec cet effet de miroir qui est là pour évoquer aussi l'omniprésence de l'eau dans cette architecture. Je vous l'expliquais tout à l'heure, le paradoxe, c'est que beaucoup d'œuvres, soit d'inspiration orientale, soit vraiment proprement réalisées par des artistes, des ateliers d'artistes musulmans en France, pour beaucoup, sont conservées dans des trésors d'église. Donc ici, c'est le cas de cette chape chasuble. Je vais vous expliquer que le vocable change en fonction des publications. En tout cas, cette étoffe de soie, on appelle ça un samite, je vous expliquerai un peu la technique tout à l'heure, provient du trésor de la cathédrale Saint-Sernin. Il a été tissé dans un atelier d'Espagne musulmane au XIIe siècle. Plus précisément, pas capable de vous le dire, donc califat de Cordoue, peut-être Almeria, c'était une des villes les plus réputées à l'époque pour ses productions. On le nomme Suaire de Saint-Exupère parce qu'il a servi à empaqueter, si je puis dire, les reliques de Saint-Exupère, saint toulousain des débuts du 5e siècle, contemporain de l'époque des grandes invasions. Cette pièce de soie brodée était conservée dans une châsse dont vous avez la photographie derrière vous, qui était une châsse en émail, qui est conservée au musée Paul Dupuy. Voilà. Ce tissu, donc, son histoire est un peu mouvementée, si je puis dire. Donc, il appartient au trésor de la cathédrale Saint-Sernin. Comment est-ce qu'il y est arrivé? Ça, on ne le sait pas. Donc, ces tissus qu'on appelle des samites, ce sont des tissus de soie. En fait, il y a un fil de chaîne qui est en soie et des fils de trame qui sont en soie et des fils de chaîne qui sont en argent ou en or. Ces samites étaient des textiles extrêmement fastueux qui étaient utilisés par l'aristocratie médiévale. Par les princes, par les princes de l'église, les seigneurs, pour des vêtements de grand prestige, pour des vêtements liturgiques également, dont le négoce était assez florissant au XIIe siècle. Vous avez des registres décoratifs qui représentent des pans affrontés autour de l'arbre de vie, donc un motif récurrent des animaux affrontés dans le monde oriental depuis des millénaires. Enfin, on n'est pas là sur quelque chose qui iconographiquement est très novateur. Ces pans sont... se tiennent sur un registre calligraphié en koufique qui comporte des formules de bénédiction, donc voilà, qui vient renforcer l'idée d'une utilisation liturgique de ce tissu. La châsse de Saint-Exupère a été ouverte à la fin du XVIe siècle. Le tissu était en 9 morceaux. Et un texte du XVIe nous explique que c'était une chasuble qui était utilisée dans la liturgie pour chanter la messe. Donc depuis le XVIe siècle, on a gardé l'idée que c'était une chasuble. En fait, on n'en sait, pas grand-chose. C'est-à-dire que cette pièce de tissu était en plusieurs morceaux. Et la reconstitution que vous avez là, qui évoque plutôt une chape, plus une chape qu'une chasuble, a été faite dans les années 60 par un inspecteur général des monuments historiques. Mais l'étude depuis de cette pièce montre que les assemblages ne sont pas forcément cohérents, donc n'ont pas été forcément correctement faits. Donc voilà, ça a une forme de chape. C'était peut-être une chasuble, on n'en sait pas grand-chose. On connaît son usage postérieur pour la protection des reliques.
On en admire la beauté, en tous les cas.
Voilà. Et alors, au XIXe siècle, des fragments ont été récupérés, 3 fragments en tout. L'un a été vendu au musée Cluny, au musée du Moyen-Âge, où il est encore. Un autre a été vendu au Bargello, à Florence, et un troisième au Victoria and Albert Museum de Londres. Donc, voilà. Donc, ce qui explique, en partie, l'état fragmentaire. Le trésor de Saint-Sernin de Toulouse, donc le fameux olifant d'ivoire qui provient aussi du trésor de la cathédrale de la basilique Saint-Sernin. C'est un objet qui a été taillé dans une défense d'éléphant, fabriqué dans un atelier sicilien, probablement de Salerne, au XIIe siècle. Donc, il y a 5 siècles après Roncevaux, à peu près, 4 ou 5 siècles après Roncevaux, la tradition fait remonter ce corps à Roland depuis la première mention du corps de Roland dans le trésor de la cathédrale Saint-Sernin date du XIIIe siècle. Donc cette croyance, elle est très très ancienne, quoi. C'est presque une vérité de foi à ce niveau-là. Mais voilà, on pense qu'il y a peut-être une des raisons de cette confusion. C'est peut-être la chanson de Roland dit que Charlemagne a déposé le corps de Roland dans dans l'église Saint-Seurin de Bordeaux. Alors, est-ce qu'il y a une confusion de vocables entre Sernin, Serein, on est très proche. C'est une supputation. Au-delà de ça, on n'est pas capable de démêler l'origine de cette légende, entre guillemets. Ces corps, ces olifants en ivoire, donc, qui étaient utilisés pour sonner le corps soit à la chasse, soit à la guerre, mais ils étaient aussi utilisés comme corne à boire. Cette pratique de la libation dans des cornets ou dans des corps, elle est connue depuis le très ancien Moyen-Âge. C'était déjà une pratique chez les peuples francs au 5e siècle. Donc, c'est quelque chose de très très ancien qui a perduré tout au long du Moyen-Âge dans les familles aristocratiques. Et d'un point de vue artistique, aussi, on a des registres décoratifs avec des animaux tête à tête qui s'abreuvent, des oiseaux qui s'abreuvent dans des cantars, des griffons, des aigles qui attaquent des taureaux, des animaux hybrides, tout un vocable qu'on va retrouver dans le premier art roman, voire avant. Ce sont des mélanges, hein, il y a des registres iconographiques un peu mélangés qui puisent dans tout le vocable du monde oriental, qu'il soit musulman, qu'il soit du monde byzantin, plus ou moins réinterprété, parce que là on est probablement dans une Sicile 11e, 12e, dans une partie du monde où il y a une forte présence musulmane, y compris d'artistes musulmans, mais on est sous administration des rois normands. On ne peut absolument pas dire si probablement cet objet a été fabriqué par des artistes eux-mêmes chrétiens. Voilà. Donc on a des registres décoratifs qui dépassent largement les appartenances religieuses. Et ce sont des objets de tabletterie, c'est-à-dire de travail de l'ivoire qu'on retrouve massivement, effectivement, dans les trésors d'église. Il y a des petits coffrets aussi dans le trésor de la basilique Saint-Sernin. Il y a un très beau coffret aussi des ateliers de Salerne du XIe siècle qui est conservé. On en a un dans nos collections également. Ce sont des choses qui ont là aussi, d'un point de vue commercial, largement inondé l'Europe à cette période-là. Là encore, les origines sont diverses. Ça peut être des cadeaux diplomatiques, ça peut être des cadeaux matrimoniaux, lors d'alliances entre familles. Et c'est aussi l'objet d'un négoce, bien entendu. Toulousaine, une collection du musée Paul Dupuy, l'astrolabe d'Abou Bakr Ibn Youssouf, qui est un astrolabe marocain fabriqué à Marrakech en l'an 613 de l'Égir, c'est-à-dire en 1216-1217. Cet artisan et savant, Abou Bakr, on lui connaît une dizaine d'astrolabes conservés aujourd'hui. Les astrolabes du XIIIe siècle conservés dans les collections publiques, il n'y en a pas des tonnes. sauf quelques musées de sciences très spécialisés. Quand le Louvre a initié son exposition Le Maroc médiéval il y a quelques années, La directrice est venue vers moi pour avoir le 7 Astrolabe en prêt. Il est parti donc au Louvre et ensuite à lors de l'itinérance de l'expo au musée Mohamed VI à Rabat, parce que le Louvre n'avait pas l'équivalent dans ses collections, hein, concrètement. Voilà. Donc c'est un astrolabe fabriqué à Marrakech. Yannick Lins a souhaité présenter cet objet dans l'exposition pour montrer la continuité les transferts de connaissances scientifiques sur le temps long entre des connaissances de base scientifiques d'astronomie qui sont celles de la Grèce du 3e ou 2e siècle avant Jésus-Christ. Hein, les premières représentations de la voûte céleste peu scientifiques, on les voit à des Grecs tournant des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ. Ces connaissances, donc les inventeurs des premières machines du type astrolabe, ce sont les Grecs, donc deux siècles avant Jésus-Christ. Savants musulmans ont repris ces connaissances des Grecs, ont largement perfectionné les astrolabes autour du 9e siècle. Il y a un énorme travail scientifique qui est fait durant la période abbasside au 9e siècle. Et bien sûr, l'usage de l'astrolabe va être énormément diffusé par les musulmans. D'abord, en Europe, c'est un instrument qui rentre par l'Espagne musulmane au Xe siècle et qui va inonder là aussi l'ensemble de l'Europe à des fins de navigation, mais pas seulement. C'est un instrument d'observation astronomique qui est utilisé pour différents relevés, différentes mesures astronomiques. Voilà. Donc là, vous avez en fait l'appareil mère qui est l'astrolabe lui-même, dans lequel viennent s'insérer différents tympans. Il y en a 7 en tout qui représentent des projections des sphères célestes à différentes latitudes sur différentes villes. Donc il y a la Mecque, il y a Marrakech, il y a Almeria, Grenade.
Dans les salles suivantes, les prêts des musées du Louvre et de l'Armée permettent de montrer des chefs-d'œuvre de l'Iran médiéval, de la Turquie ottomane et de l'Inde moghole. Et le parcours se termine par la vidéo de l'artiste tunisienne Nissen Kossentini, pour faire un lien entre le passé et le présent.
Alors, l'exposition s'achève dans cette salle avec une partie sur les techniques de céramique, dont certaines, comme le lustre métallique, ont été adoptées en Occident, et par l'œuvre contemporaine, l'installation vidéo de Nissen Kossentini. Donc ici, dans ces deux vitrines, est présentée une technique qui est là typiquement musulmane, qui est la technique du lustre métallique. C'est une technique qui est probablement inventée en Irak ou en Égypte au 9e siècle. On a des proto-lustres un peu avant peut-être, mais en gros on est au 9e siècle pour les premiers exemplaires de cette technique. C'est une technique qui sert à imiter la vaisselle métallique, puisque aussi bien durant l'Antiquité qu'au Moyen-Âge, la vaisselle d'apparat, la vaisselle véritablement de prestige, c'est de la vaisselle métallique. Tout ce qui est céramique, on est dans du second choix, si vous voulez. Donc les potiers arabes ont mis au point une technique de céramique imitant la vaisselle métallique. Donc c'est une technique apparue dans le califat de Bagdad au 9e siècle, qui se développe ensuite dans l'Espagne musulmane. Autour des 11e et 12e siècles, la production de lustres métalliques, elle est essentiellement dans le califat de Bagdad. Et ensuite, elle
c'est en Syrie, au 13e, 14e, 15e siècle, que le plus gros de la production se fait, mais on continue dans le califat de Cordoue à produire de la céramique de lustre métallique. Là, on est sur un plat qui est conservé dans les collections du musée Paul Dupuy, qui date des tournants des 15e et 16e siècles, et qui reprend cette technique. Vous avez ici une sublime coupe à l'oiseau qui vient de Cachan, donc de l'Iran seldjoukide du XIIIe siècle, juste avant la conquête mongole, l'arrivée de Genghis Khan en Iran.
Il y a quelque chose de déroutant quand je suis allé sur la vidéo qui présente l'exposition,
oui.
La vidéo du Louvre, et la directrice du département explique qu'en fait les arts de l'islam ça n'existe pas. Ça commence bien.
Mais elle a
parce
pas
qu'elle
tort.
Dit que c'est une appellation créée par les Occidentaux pour regrouper.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On a des mélanges d'influences, on a des artistes dont on ne sait pas toujours s'ils sont eux-mêmes musulmans. Oui, il y a des techniques qui sont très spécifiques à un moment donné, à une zone géographique, au califat de Bagdad, au califat de Cordoue. Mais en même temps, ces techniques, elles voyagent, elles sont initiées à un endroit, à une époque, et ensuite elles se diffusent, elles sont adoptées par d'autres. Qu'est-ce que ça a, effectivement, de directement relié à la religion ? Pas grand-chose. Mais chaque pays a ses traditions, a ses populations bien ancrées. Alors même si vous avez tout à coup un nouvel occupant qui vient et qui installe un certain nombre de règles nouvelles, on ne fait pas totalement table rase du passé. Mm-hmm. Donc les choses, forcément, il y a un enrichissement, il y a un syncrétisme aussi. Voilà. Et au fil du temps, les choses ne sont pas immuables, loin s'en faut. Même s'il y a des apports qui restent, des techniques qui, parce qu'elles ont fait leurs preuves, continuent à être utilisées.
Les arts de l'islam, un passé pour un présent, une exposition visible au musée des arts précieux Paul Dupuy jusqu'au 15 mars 2022.